Radio Kapi. Oh, Kapi.
L'RDC et l'Angola d'accord pour reconduire à la frontière des immigrés illégaux dans le respect des droits de l'homme. Décision issue de la dernière réunion de défense et sécurité entre les deux pays. En effet, plusieurs ONG ont souvent dénoncé les exactions subies par les Congolais expulsés de l'Angola. Désarmement des miliciens de la FRPI en Ituri, c'est pour le 30 septembre prochain, sauf imprévu. Un compromis a été trouvé dans ce sens entre le gouvernement congolais et ce groupe armé. Vous entendrez à ce sujet le responsable du Starec en Ituri. Et puis, l'invité de ce journal, Élisée Lusamba, coordonnatrice provinciale de l'Union congolaise des femmes des médias UCOFEM, Kasaï Central. Elle lance ici un appel aux femmes des médias à surmonter les stéréotypes et autres coutumes rétrogrades afin d'exceller dans leur profession. Madame, Messieurs, bonsoir. Les gouverneurs des provinces frontalières de l'Angola et de la RDC conviennent de la reconduite à la frontière des immigrés illégaux dans le respect des droits de l'homme. C'est l'une des résolutions prises lors de leur rencontre à Luanda, la capitale angolaise, le lundi 14 septembre. Ces derniers mois, plusieurs organisations avaient haussé le ton pour dénoncer les conditions d'expulsion des Congolais en situation irrégulière en Angola. Le point de la situation avec Joël Bofengo.
Cette question de la reconduite à la frontière des immigrés illégaux est souvent revenu au devant de l'actualité ces derniers mois avec les opérations d'expulsion menées par les forces de l'ordre angolaises. Plusieurs organisations de la société civile du Kasaï ont souvent dénoncé les sévices corporels subis par les Congolais expulsés du territoire angolais. Lors de leur rencontre tenue en marge de la réunion bilatérale de défense et sécurité entre la République d'Angola et la République démocratique du Congo, les 10 gouverneurs concernés se sont mis d'accord pour que les reconduites à la frontière se fassent dans le respect des droits de l'homme. Ils ont également décidé de la poursuite de la localisation et la matérialisation des bornes frontières pour la délimitation de leur province. Des incidents ont été enregistrés ces dernières semaines à la frontière entre le Kasaï et la province angolaise de Luanda Norte. Des échanges de tirs entre forces de l'ordre ont fait au moins un mort. Selon le compte rendu de cette rencontre, les gouverneurs du Kasaï central, du Congo central, du Kwango, ainsi que la vice-gouverneure du Lualaba ont pris part à cette réunion. De Kananga, Joël Bofengo, Radio Kapi.
Je vous le disais en titre, le gouvernement de la RDC et le groupe armé Force de Résistance Patriotique de l'Ituri FRPI sont d'accord sur un nouveau calendrier pour le processus de paix au sud d'Irumu en Ituri. Selon le responsable du Starec en Ituri, le lancement de l'opération de désarmement des miliciens de ce groupe armé est prévu le 30 septembre prochain au site de Kazana et de Karati en chefferie de Walindu-Bindi. Jean-Marc Mazio précise que cette phase va durer 2 mois et sera suivie de l'étape de réinsertion communautaire des ex-combattants qui vont choisir la vie civile. Il ajoute qu'un compromis a été trouvé entre les deux parties sur les questions entre autres d'amnistie et de grade. Jean-Marc Mazio, responsable du Starec en Ituri, joint au téléphone par Isaac Remoyope.
Après les échanges, nous avons convenu à un agenda, donc à un nouveau chronogramme qui prévoit la date du 30 comme le lendemain des opérations de désarmement au niveau des sites de Karachi. Et par rapport aux opérations de désarmement, de mobilisation, le programme s'étale sur 2 mois. Mais si on peut considérer aussi le projet de répression, ça va s'étaler sur 21 mois. Et à ce qui concerne la réponse au niveau du gouvernement, il y a quand même des avancées significatives par rapport au cahier de charges. Ils ont demandé le DDR inutile ou DDR local, communautaire. Le gouvernement a accepté. Ils ont parlé aussi de libération. Donc certains leaders qui parlent aussi. Je crois que vous êtes au courant des avancées significatives dans ce sens. Et puis, à ce qui concerne l'amnistie, je crois que vous vous souviendrez aussi, il n'y a pas de matin qu'il y a eu le compte rendu du Conseil des ministres.
Compromis aussi au sud Kivu. Les groupes armés et le gouvernement de la RDC s'engagent à la cessation immédiate des hostilités et la libération des prisonniers Maï-Maï impliqués dans le processus désarmement, démobilisation et réintégration communautaire, DDRC. C'est l'une des grandes résolutions de la réunion tenue 3 jours durant à Muresa, dans le territoire de Kabare. Rencontre clôturée hier. Cette rencontre a été organisée par la Commission interprovinciale d'appui au processus de sensibilisation désarmement, démobilisation et réintégration communautaire, SIAP DDRC, avec l'appui financier de 3 ONG spécialisées dans la résolution des conflits. Reportage de Cynthia Bachizi.
Le ministre délégué à la Défense nationale confirme que les deux parties, c'est-à-dire le gouvernement d'une part et les groupes armés d'autre part, ont convenu qu'il ne sera plus question de laisser les groupes armés intégrer l'armée sans adhérer au processus de désarmement, de mobilisation et réinsertion communautaire. Le brassage est un moment de grâce qui a ses limites, renchérit le ministre Sylvain Moutombo qui a représenté le gouvernement aux assises de Mouressa du 14 au 16 septembre.
Ils se sont engagés à intégrer l'armée sans aucune obligation en termes de grade et nous les avons aussi encouragés de suivre les procédures liées à l'intégration dans l'armée conformément à la loi portant statut de militaire de FARDC et cela se fera cas par cas.
Cette rencontre a réuni autour de la table les autorités congolaises et presque 70 groupes armés. Toutes les parties prenantes se sont engagées à respecter les résolutions finales issues de cette rencontre, notamment une cessation immédiate des hostilités de la part des groupes armés et la libération des prisonniers Maïmaï par le gouvernement congolais. Des comités de suivi seront également constitués dans chaque groupe armé pour dénoncer des abus en rapport avec les crimes de droits de l'homme. Bukavu, Cynthia Bachizi, Radio Okapi.
Et pendant que la milice FRPI décide d'abandonner les armes, la FPIC, elle, continue à causer la désolation dans l'Ituri. Téné, 4 personnes, dont 3 militaires des FARDC et un policier, ont été tués et 40 maisons incendiées. C'était lors d'une attaque mercredi matin attribuée aux miliciens de la Force patriotique et intégrationniste de l'Ituri, FPIC, au village de Djida et de Mwanga, à une dizaine de kilomètres au nord-ouest de Bunia. Des sources locales rapportent que les miliciens ont également pillé des biens dans certaines habitations. Ils ont été délogés par les FARDC qui poursuivent les opérations dans la zone. Isaac Remoyope nous raconte.
C'est tôt le matin qu'un groupe de miliciens de la FPIC a investi le village de Djida, en chefferie de Babo Aboko et dans les territoires d'Irumu. Ils ont attaqué une position des forces de l'ordre déployée dans cette entité. Les bilans fournis par des sources locales est de 4 morts, 3 soldats et 1 policier. Ces hommes armés ont également incendié plus de 40 maisons. Toujours hier, un autre groupe de ces hors-la-loi a fait incursion au village de Mwanga. Ils se sont introduits dans certaines habitations et emporté des chèvres et des poules. Cette double attaque a entraîné des déplacements des populations vers les quartiers Muzipela dans la ville de Bunia. La société civile de Babo Aboko indique que la population de cette chefferie est presque prise en otage par ces groupes armés qui s'est installé dans le milieu. Conséquence, de nombreux habitants ne peuvent plus accéder à leurs champs ou se mouvoir librement, ce qui nécessite, selon cette structure citoyenne, l'intervention des FARDC. Des sources militaires renseignent que les forces loyalistes ont réussi à déloger ces miliciens et l'offensive militaire s'est poursuivie ce jeudi matin encore pour dissiper toute menace d'une nouvelle attaque. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Entre-temps, au Nord Kivu, la phase 2 du projet pour la stabilisation de l'Est de la RDC pour la paix Step 2 a été présentée hier à Goma, mise en œuvre par le Fonds social de la République avec le financement de la Banque mondiale à hauteur de 445 millions de dollars américains. Step 2 privilégie notamment l'amélioration des revenus des ménages vulnérables en RDC, parmi lesquels les réfugiés. Et du coup, deux nouvelles provinces du pays vont pouvoir bénéficier des activités du Fonds social de la RDC jusqu'au 26 février 2024. Des précisions avec Jules Ngalawamona.
Le Nord-Ubangi et le Kasaï central vont pouvoir rejoindre le petit cercle des provinces bénéficiaires des activités du Fonds social de la RDC réservé jadis aux seules provinces de l'Est. Pour le coordonnateur général du Fonds social de la RDC, la présence des réfugiés a beaucoup joué pour la sélection de 5 nouvelles provinces visé désormais par le nouveau projet. Ruffin Bo Olongo.
Les provinces qui font face à cette question de réfugiés et les déplacements des populations ont été ciblées et les provinces où il y a les problèmes de crise sanitaire ont été ciblées. D'où les 5 provinces, Nord, Sud Kivu, Ituri, Kasaï Central et le Nord Ubangi.
Le Kasaï Central va bénéficier d'environ 71 millions de dollars et le Nord Ubangi environ 93 millions pour cette deuxième phase de 4 ans, une phase où le Fonds social entend mettre particulièrement l'accent sur l'accès des communautés vulnérables aux moyens de subsistance et aux infrastructures de base selon le plafond de ses interventions. Goma, Jules Galawa Mona, Radio Okapi.
Retour au sud Kivu. La pluie qui est tombée la nuit de mardi à hier mercredi soir a causé des dégâts énormes dans le territoire de Calais et à Walungu. Au moins 100 maisons ont été endommagées, 3 écoles détruites et des champs ravagés. Aucun dégât humain, mais la plupart des victimes sont à ce jour sans logis. Le président du cadre de concertation de la société civile à Calais appelle les partenaires à penser à une assistance en faveur des victimes. Le récit avec Michel Chirimwami.
Trois territoires du sud Kivu sont déjà sous les chocs provoqués par les dégâts des pluies à Kalehe, Mwenga et à Walungu. Le rapport de Kalehe fait état des dégâts énormes qui mettent du coup les victimes en situation d'indigents. La pluie forte de Luchébéré et ses environs a détruit 3 écoles, 100 maisons d'habitation et les champs de cultures vivrières dévastés par les eaux. À Walungu centre, les premières estimations renseignent que la pluie de ce mercredi soir a inondé les marais agricoles. En plus, une partie de la toiture du bureau administratif du territoire et de la chefferie de Ngweche a été emporté par les vents violents pendant la pluie. La toiture d'une église protestante de la place à Walungu aussi. À Mwenga, les dégâts des pluies de dimanche a fait une 50aine de morts dans un puits minier. Les communautés sinistrées lancent un SOS aux autorités. Delphine Birimbi de la société civile de Calais.
C'est une situation très très chaotique. L'appel au gouvernement provincial avec ses partenaires pour venir en aide toutes les populations frappées. Aussi, réhabiliter les écoles avant le 5 octobre.
La société civile environnementale au sud Kivu propose une politique de reboisement pour limiter les dégâts des pluies au sud Kivu. Bukavu, Michel Chirimwami, Radio Okapi.
Province de la Tshopo, les étudiants de l'université de Kisangani sont inquiets des enseignements à double vitesse assurés dans leur établissement. Si dans certains auditoires, certains enseignants expédient leur charge horaire, par contre, dans d'autres, la grève décrétée par l'association des professeurs et un peu plus tard par le corps scientifique se poursuit de plus belle. Face à cet état de choses, les étudiants de l'UNIKIS se disent inquiets. Ils demandent aux professeurs grévistes de rejoindre ceux qui enseignent afin que l'année académique en cours se termine en beauté. Dans une déclaration hier à Radio Capi, le représentant des étudiants de l'UNIKIS implore l'implication des autorités compétentes pour que cette crise soit dénouée. Gauthier Lemba, au micro de Jacques Moukonkole.
Nous, étudiants de l'Université de Kisangani, nous avons adressé notre mémo au président de la République, au ministre de l'ESU et aussi nous avons adressé ça au recteur de l'Université de Kisangani. Nous réclamons que les enseignements puissent reprendre, que l'État congolais puisse satisfaire les revendications des professeurs. Nous soutenons les déclarations faites par les corps scientifiques et la PUKIS qui a déclenché la grève pour que nous puissions reprendre nos enseignements. En tout cas, les étudiants de l'université de Kisangani sont les absents de cette rentrée académique après la levée de l'état d'urgence par le président de la République. Depuis le 8 août, alors que la rentrée devait se faire le 10, depuis le 8 août, les professeurs se sont réunis à la faculté des sciences afin de déclencher la grève illimitée.
Il y a des enseignements qui se donnent quand même à l'université, non?
Oui, nous avons eu à observer dans certaines facultés, il y a certains professeurs qui viennent déjà pour enseigner, professeurs qui sont souciés de l'enseignement, les professeurs qui viennent par vocation enseigner. Oui, notre souhait, c'est que les professeurs grévistes puissent rejoindre les professeurs qui donnent cours pour que les enseignements se passent. Cette année qui est déjà sauvée des grâces, nous voudrions bien la terminer en paix. En bonté.
En politique, le Front commun pour le Congo, FCC, appelle ses partenaires de la coalition au pouvoir et toute la population à l'apaisement au moment où le pays traverse une crise économique et politique multiforme. Dans un point de presse tenu ce jeudi à Kinshasa, André Alain Atundu, communicateur de cette plateforme politique, demande au Parlement de doter le gouvernement d'un budget conséquent afin de relever tous les défis auxquels il fait face. André Alain Atundu, au micro de Paul Matendo.
Sur le plan financier, la République est sur la corde raide. Pour être plus concret, n'a pas les moyens des enjeux qui s'est fixé et des défis qu'il doit affronter. Et sur le plan politique, la République est au bord du gouffre parce que la cohésion nationale, qui est le nerf de la vitalité de la nation, est mise en mal. Et ne voit pas venir le danger de l'extérieur et de ceux qui sont parmi. Voilà pourquoi il faut que nos partenaires puissent se ressaisir, reprendre leur place au pouvoir, de parti de pouvoir. Ils doivent déserter la rue pour investir le bureau. Parce qu'aujourd'hui, la population n'attend pas les démonstrations de rue de leur part, mais plutôt des solutions issues des bureaux réfléchis.
Actualité, Afrique Monde.
Présidentielle en Côte d'Ivoire, les partisans de Laurent Gbagbo appellent à la mobilisation. Cela, deux jours après l'invalidation par le Conseil constitutionnel ivoirien de 40 candidatures sur 44, dont celle de Laurent Gbagbo. Il condamne et conteste cette décision qualifiée de forfaiture d'une juridiction instrumentalisée par les dirigeants actuels. Les partisans de Laurent Gbagbo appellent aussi à la mobilisation contre la candidature d'Alassane Ouattara à un troisième mandat. En Libye, le Premier ministre Fayez El-Sarraj a annoncé mercredi soir la démission à venir de son gouvernement, celui de Tripoli, au plus tard fin octobre. Il a appelé le comité de dialogue à nommer très rapidement un nouveau gouvernement. Des réunions de ce comité doivent avoir lieu prochainement à Genève sous l'égide de l'ONU avant des nouvelles discussions au Maroc à la fin du mois prochain. Rappelons que les contacts internationaux autour de la Libye se sont multipliés ces dernières semaines pour consolider le cessez-le-feu, ce qui passe d'abord par une réforme des institutions. L'ONU a exhorté la Grèce à accélérer les procédures de demande d'asile à Lesbos, où 12 000 migrants sont toujours en errance depuis l'incendie apparemment criminel du camp de Moria. Nous sommes en Grèce. Le HCR a érigé un camp d'urgence sur Lesbos. Dans les tentes blanches destinées à accueillir 8 000 personnes, seuls 1 200 migrants se sont pour l'instant installés. Les autres hésitent. Ils considèrent ce nouveau camp comme une prison de laquelle ils ne pourront plus partir. Pourtant, c'est ici que les procédures pour quitter enfin l'île se poursuivront, a expliqué un responsable du HCR.
L'invité.
Elle nous vient du Kasaï central. Les femmes des médias sont appelées à surmonter les stéréotypes et autres coutumes rétrogrades afin d'exceller dans leur profession. Cet appel émane de la coordonnatrice provinciale de l'Union congolaise des femmes des médias, UCOFEM. Invitée de Radio Okapi, Élisée Lusamba appelle également ses semblables à la maîtrise du métier du journalisme pour leur autonomisation dans la société. Elle répond aux questions de Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour Madame Élisée Lusamba.
Bonjour Monsieur Blaise.
L'Union congolaise des femmes des médias a organisé un atelier sur les notions des violences basées sur le genre. Quelles sont les recommandations assorties de ces assises?
Merci beaucoup, Monsieur Blaise Dongala, pour nous avoir posé cette question et pour l'intérêt que vous accordez à l'Union congolaise des femmes des médias. À l'issue de cette formation, les participants, surtout les membres de l'UCOFEM, ont recommandé à nous qui pilotons ces comités de gestion de pouvoir multiplier beaucoup d'efforts en vue d'étendre ces genres d'activités, c'est-à-dire que ces genres de formations puissent se multiplier pour leur performance. Les membres de l'UCOFEM qui avaient pris part à cette activité, ils ont pris connaissance sur les matières des VBG bien sûr, mais il y a d'autres matières qui nécessitent la formation également. Voilà pourquoi ces membres ont bien voulu nous recommander de pouvoir toquer à d'autres portes afin qu'elles puissent accéder à d'autres formations. Par exemple, axé sur les traitements de l'information, les montages des sons, la technique d'interview, etc.
La session étant clôturée, quelle est la prochaine étape de l'UCOFEM dans le cadre de la lutte contre cette forme de violence basée sur le genre?
La prochaine étape pour l'UCOFEM, c'est s'appuyer sur les recommandations qui sont sorties des membres. L'idée, c'était que les femmes, surtout jeunes filles, les débutantes dans le métier du journalisme, puissent avoir des formations continues. Pourquoi ces formations continues? Ça va leur permettre de pouvoir exceller, de pouvoir se rendre autonome, parce que si nous avons demandé aux partenaires de pouvoir les former sur les violences sexuelles et celles basées sur les genres, c'est parce que nous avons constaté que ces jeunes filles qui viennent dans les médias font face à certaines formes de violences sexuelles et certaines d'entre elles ne parviennent pas à continuer dans les médias parce que elles sont harcelées, certaines se trouvent à l'impossibilité de pouvoir contourner la chose pour avancer. Voilà pourquoi nous avons voulu qu'elle soit premièrement informée sur les VBG. La prochaine étape, c'est que nous puissions encore toquer à des portes. Je sais que le SFCG, c'est un partenaire potentiel. Il y a également les PIO de la MONUSCO. Il y a beaucoup de partenaires. Nous avons frappé à leurs portes. Ils sont favorables pour nous accompagner. Nous allons vraiment former ces jeunes filles à maîtriser tout ce qui concerne les journalismes. Parce que elles font l'objet de menaces et des formes de violences sexuelles parce qu'elles veulent apprendre derrière les hommes. Les journalistes qu'elles ont trouvés dans les médias se font généralement passer pour des connaisseurs, pour des gens qui sont prêts à leur apprendre le métier. Alors que derrière cet éventuel apprentissage, ils en profitent pour leur demander la main parce que venant d'arriver, elles ne savent pas comment elles peuvent tenir elles-mêmes pour, n'est-ce pas, tenir dans le métier. Nous, à notre niveau, nous ne croisons pas les bras. Nous allons toujours toquer aux portes de certains partenaires pour qu'elles nous viennent en aide. Parce que ces filles sont appelées à devenir demain ou après-demain des leaders, de grandes dames pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt de la province. Voilà pourquoi nous avons voulu, à notre manière, contourner la situation, donner du courage à ces jeunes dames, leur donner une détermination, une bonne formation pour qu'elles se rendent autonomes.
Que répondez-vous à certaines personnes qui accusent aussi les femmes des médias d'afficher des comportements qui les exposent à certaines formes de violence basées sur le genre?
Ce sont des stéréotypes. Ce sont des idées que les gens se font. Surtout ici chez nous au Kasaï Central, messieurs les journalistes. Vous savez que la femme n'avait pas sa place en société. La place de la femme était à la cuisine, était seulement pour élever les enfants et tout. Maintenant que la femme a commencé à comprendre qu'elle ne doit pas seulement rester à la maison, elle ne doit pas seulement rester pour s'occuper de la cuisine, elle doit sortir. Donc, cette femme qui termine ses études, qui cherche à avoir un emploi et à s'imposer dans la vie, elle est toujours considérée comme une femme légère. Vous savez, les journalistes, c'est quelqu'un qui est appelé à être public parce qu'il est en contact avec toute catégorie de personnes. Derrière là, il y a des stéréotypes, il y a des mauvaises idées, des idées négatives parce qu'on estime que la femme, elle est connue, elle est publique, voilà, le fait pour elle d'être connue, elle est légère.
Madame Élisée Lusamba, nous vous disons merci.
Voilà, c'était là notre invitée, la coordonnatrice de l'UCOFEM Kasaï Central. Élisée Lusamba répondait aux questions de Blaise Ndongala. Ainsi prend fin ce journal supervisé par Axel Goncho, coordination de recherche Union Kamunga. À la technique, c'était Mimi Kindou et Belinda Boussouma vous la présentait. Merci de nous avoir suivis.